Radio Madju,
la radio du collège Marthe du Perron,
à Langogne, sur 48 FM.
Bonjour et bienvenue sur Radio Madju. Vous êtes avec Wayne. Nous allons revenir dans cette émission sur les événements marquants de ces dernières semaines. Nous commençons notre émission avec un reportage de Léo sur un atelier jeu de rôle proposé au collège Marthe du Perron.
Les reportages
sur Radio Madju.
Bonjour, vous êtes avec Léo sur Radio Madju. Nous sommes actuellement en salle de physique-chimie pour un reportage sur le club de jeux de rôle animé par Guillaume Davo, le professeur de physique-chimie. Bonjour, monsieur Davo.
Bonjour Léo.
Monsieur Davo, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est ?
Alors le jeu de rôle, c'est un jeu de société qui propose aux participants d'incarner des personnages fictifs dans un univers imaginaire. Chaque joueur va y décrire ses actions et interpréter les dialogues. Il y a un joueur qui a un rôle un peu particulier, c'est celui qu'on appelle le maître de jeu. Il est à la fois le narrateur d'une histoire et l'arbitre. Il propose aux participants donc l'histoire, hein, et chaque joueur va y décrire les actions de son personnage. En cas de besoin, les actions sont résolues par des tirages de dés, et c'est le maître de jeu qui va interpréter les résultats et poursuivre la narration en intégrant ce qu'ont demandé les joueurs. Chacun participe à l'élaboration de l'histoire.
Merci. Depuis quand proposez-vous cette activité ?
Alors moi, je suis passionné par les jeux de société en tout genre, donc dès que je suis arrivé au collège en 2017, je me suis associé avec Madame Perrac pour animer un atelier de jeux de société. Et puis, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de tenter l'expérience en proposant le club de jeux de rôle.
Merci. Pourquoi ce choix de jeu de rôle plutôt que les jeux de société plus classiques ?
Alors d'abord parce que c'est un loisir que j'affectionne, je l'ai pratiqué pendant ma jeunesse et je le pratique encore quand j'ai l'occasion. C'est une expérience qui est très enrichissante et qui reste relativement méconnue du public. Elle permet de développer de nombreuses compétences chez les élèves, que ce soit sociales, culturelles ou artistiques. J'ai longuement réfléchi avant de proposer le club, parce que j'avais quelques craintes. D'abord, le public est assez jeune. Ensuite, on n'a qu'une heure par semaine, donc c'est un temps relativement court. Et puis, gérer un grand groupe d'élèves, c'est pas forcément simple. Donc j'ai beaucoup hésité, et puis finalement, je suis tombé sur un article dans une revue spécialisée de jeux de rôle, qui était un article rédigé par un collègue d'histoire-géographie qui présentait le club de jeux de rôle qu'il anime dans son collège. Donc j'ai pris contact avec lui, et puis après quelques échanges, eh bien, il m'a convaincu que c'était une bonne idée. Et du coup, c'est comme ça que le club est né.
Merci. Comment se déroulent les sessions de jeux de rôle ?
Alors, les sessions, elles se déroulent tous les mardis entre 13h et 14h. Les élèves qui souhaitent participer au club, eh bien, ils sont les bienvenus. Ils me rejoignent en salle de physique-chimie. Au début de l'année, je prends le rôle du maître de jeu pour que le groupe se soude un petit peu, que les nouveaux apprennent un peu les mécanismes de jeu. Et puis ensuite, en fonction des envies et des demandes des élèves, on va évoluer ensemble, le maître de jeu peut tourner, les univers peuvent changer, etc.
Merci. Quel est votre scénario préféré et dans quel univers se déroule-t-il ?
Alors pour ce qui est du scénario, c'est difficile à dire, c'est très variable, ça dépend essentiellement du maître de jeu et des joueurs qui sont autour de la table. Je pense que c'est eux qui font qu'on a une bonne expérience d'une session de jeu de rôle. Concernant l'univers, c'est vrai que moi, l'univers que j'affectionne en particulier, c'est l'univers de la Plaine de Cthulhu, qui est inspiré donc des écrits de Lovecraft, qui déroule dans les années 1920, un univers assez horrifique.
D'accord. Merci, monsieur Davo. Je me dirige maintenant vers Mathéo et Alexandre. Depuis combien de temps participez-vous à jeu de rôle ?
Moi, ça fait depuis début d'année que je participe à jeu de rôle. J'aime bien.
Moi, ça y est plus aussi le but. Depuis le début de l'année, c'est très bien et
moi ça va faire ma deuxième année. J'avais découvert jeu de rôle parce que il manquait une place, parce que quand une personne était partie, on m'a proposé de la remplacer. Puis au fur et à mesure, je suis restée. Je trouve que c'est un jeu très bien parce que ça travaille l'imagination. C'est un petit peu difficile à comprendre au début ou quand les scénarios changent. Et l'histoire aussi, mais c'est un très bon jeu.
Merci. Aimez-vous l'atelier jeu de rôle ?
Oui, moi j'aime bien. J'ai des amis qui jouent et c'est intéressant, c'est drôle.
Oui, c'est très bien. Je préfère quand même le jeu de rôle que les autres clubs que j'avais fait avant. Mais c'est avec tous les amis qui sont autour de la table, c'est vachement mieux.
Merci.
Moi j'aime bien le jeu de rôle, parce que c'est un jeu qui ferait l'imagination. En plus, vu qu'on n'est pas beaucoup, on rigole bien, on apprend à se connaître les uns les autres. Et puis, c'est aussi bien d'être un joueur ou de notre jeu, parce que en étant joueur, tu essayes de gagner, tu combats des différents monstres. Et en maître du jeu, tu peux les voir faire des choses, des trucs qui fait plus bien ou pas bien, des fois. C'est des situations assez rigolotes de temps en temps.
À quoi jouez-vous en ce moment?
On joue aux Chroniques oubliées.
Donc, on a un petit livret avec plein d'aventures. Donc, celle qu'on est en train de faire, ça s'appelle La Tombeau au Vert. C'est nos héros, ils se sont fait enfermer dans un kidnappé dans une sorte de tombeau. Et ils essayent de s'en sortir, mais il y aura des obstacles sur leur chemin.
Quel est votre scénario préféré et quelle est l'histoire de ce scénario?
Mon scénario préféré, c'est celui-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de monstres de ce qu'on avait fait, celui qu'on avait fait avant.
Merci Mathéo, merci Alexandre, merci Charlie. C'était Léo sur Radio Mathieu.
Vous êtes toujours avec Wayne. Dans le cadre du cours d'histoire géo avec Madame Perrac, chaque élève de 6e doit réaliser et présenter à l'oral un résumé d'un article de revue présenté au CD. Nous avons sélectionné pour vous le travail de Alicia, qui va nous parler des météorites au micro de Mani.
On feuillette les articles du CDI sur Radio Madu.
Bonjour, vous êtes avec Mani sur Radio Madu. Aujourd'hui, je reçois Alicia, élève de 6e A, qui va nous expliquer le contenu d'un article issu d'une revue. Bonjour Alicia.
Bonjour.
Alicia, tu vas donc nous parler d'un astéroïde. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce phénomène ?
Oui, nom de la revue, Un jour une actu. C'est un journal hebdomadaire, date de la revue 17 au 23 mars 2023. Nom de l'article, Astéroïde en approche, auteur de l'article, Élise Rangot. Un astéroïde est un gros rocher qui explore l'espace. Si l'astéroïde se rapproche de la Terre, il va brûler et va former une étoile filante. S'il est trop gros, il pourra exploser en arrivant dans l'atmosphère et percuter la Terre. Prenons l'exemple de l'astéroïde 2023 DW. Sa taille, 40 à 80 mètres, et sa vitesse, 90 000 km/h. Il tourne autour du Soleil et croisera notre planète en 2046. Cet astéroïde a été découvert le 26 février avec un télescope situé en Amérique du Sud, au Chili. Les scientifiques ne savent pas encore à quoi il ressemble. Il passera à côté de la Terre le 14 février dans 23 ans. D'après la NASA, il y a 99,85% de chances que l'astéroïde ne percute pas notre planète, mais qu'il passe à côté sans la percuter. Si il va sur la Terre, la NASA pourrait le dévier. Elle s'est préparée à une situation avec la mission DART. Si l'impact avait quand même lieu, cet astéroïde pourrait anéantir une très grande ville, mais les scientifiques pensent que l'impact serait dans l'océan Pacifique. Cela causerait un tsunami et les habitants menacés seraient évacués. Un gros astéroïde est très rare, mais c'est déjà arrivé en Russie il y a déjà 10 ans. Il mesurait une quinzaine de mètres et 1600 personnes ont été blessées. Les scientifiques surveillent plutôt l'arrivée des astéroïdes et la population pourrait se mettre à l'abri.
Nous voilà mieux informés. Merci Alicia pour ce commentaire intrigant.
Au revoir.
C'était Alicia, élève de 6e. De Collège Marthe Duperron. Connaissez-vous Victor Hugo ? Émission spéciale en son honneur, à présent réalisée par les élèves de 4e, dans le cadre du cours de français encadré par Madame Rentier.
Bonjour, vous êtes avec Charlie sur Radio Madu. Cette semaine, les élèves de 4e ont fait un voyage de longtemps et sont partis au 19e siècle à la rencontre de Victor Hugo. Aujourd'hui, ces élèves vont nous parler de ce célèbre écrivain. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Lydia, peux-tu nous parler de la jeunesse de Victor Hugo ?
Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon. Son père est un général de l'Empire de Napoléon Ier. En 1812, les parents de Victor Hugo se séparent. Quand il est adolescent, Victor vit à Paris avec sa mère et ses frères. Il va au lycée Louis le Grand. C'est un brillant élève. Il adore les livres, cela lui permet d'oublier la réalité. Ses parents divorcés et l'absence de son père.
Merci Lydia. Anaïs, qu'est-ce qui a donné envie d'écrire à Victor Hugo ?
Depuis qu'il est tout petit, Victor Hugo adore lire et écrire. Il commence à écrire des vers lorsqu'il est au lycée. À 14 ans, il écrit dans son journal « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Chateaubriand est un célèbre écrivain. Victor Hugo était déjà très ambitieux.
Merci Anaïs. Abel, quels événements ont marqué la vie de Victor Hugo ?
En 1821, la mère de Victor Hugo est très malade et meurt. En 1822, il épouse Adèle Fouché, son amie d'enfance. Ils auront ensemble 5 enfants, Léopold, Léopoldine, Charles, François et Adèle. L'événement tragique qui a marqué la vie de Victor Hugo est la mort de sa fille Léopoldine qui s'est noyée dans la Seine lorsqu'elle avait 19 ans. Victor est inconsolable. Plus tard, il écrit un recueil de poèmes en hommage à sa fille, Les Contemplations. C'est dans ce recueil qu'on trouve le poème Demain des Lobes.
Merci Abel. Tanagi, Victor Hugo a aussi été un homme politique. Peux-tu nous en dire plus ?
Victor Hugo était élu député en 1848. Il va s'engager contre les injustices sociales. En 1849, à l'Assemblée nationale, il prononce un célèbre discours contre la misère. Victor Hugo est aussi contre la peine de mort. Il dit que tuer un criminel, c'est s'abaisser à son niveau. L'écrivain va utiliser ses livres pour défendre ses idées. En 1829, il écrit « Le dernier jour des condamnés », qui raconte les sentiments d'un homme avant d'être pendu. Puis, il écrit Claude de Gueux, où il montre comment la misère et les injustices de la société peuvent amener un homme honnête à commettre un crime. Victor Hugo pense qu'il vaut mieux ouvrir des écoles que des prisons.
Merci Tanagi. Raphaël, quelles sont les autres œuvres connues de Victor Hugo ?
Victor Hugo a écrit des pièces de théâtre, des poèmes et aussi des romans. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo raconte l'histoire de Quasimodo, un bossu qui sonne les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui va tomber amoureux de la belle Esmeralda. Dans Les Misérables, il raconte la vie de pauvres gens du 19e siècle.
Merci Raphaël. Ginzo, pourquoi Victor Hugo a dû quitter la France ?
Victor Hugo a dû quitter la France car il s'est opposé à l'empereur Napoléon III. Il part sur les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey où il va rester 18 ans.
Merci Ginzo. Elodie, selon toi, pourquoi l'œuvre de la vie de Victor Hugo nous touche encore autant en 2024 ?
Son œuvre nous touche parce que son combat contre la misère est encore d'actualité d'aujourd'hui.
Merci Elodie. C'était Charlie sur Radio Madi.
Vous êtes toujours avec Wayne sur Radio Madu, nous nous retrouvons après une petite pause de musique de MC Solar qui s'intitule En cours.
Je vais vous dire la vérité, parler avec sincérité. J'étais perdu dans la cité, dans les ténèbres, l'obscurité. Les professeurs que j'ai rencontrés m'ont dit ne te laisse pas aller. La pente tu vas remonter, alors j'ai changé de phrasé. Fini les gouttes puis les attaques à la cou. Fini les fétiches puis les marabouts. Plus de coups de coude, on ne rend plus les coups. On t'éclipse comme Wanadu. Jadis beaucoup se prenaient pour des dieux, des Tupac Shakur. Mais je changerai pas de discours au nom de tous les troubadours. Le temps avance, plus c'est la même chose. On abandonne les mêmes causes. Quand ça explose, les mannequins font les mêmes poses. Y'a plus d'espoir dans le bâtiment. Tes rêves sont des châtiments. L'été dans le département, tu attends le débarquement. T'es l'Indien dans la ville, t'es pris dans le tourbillon d'avis. Mais si tu veux mon avis, il faut que tu te bouges, on n'a qu'une vie. C'est le flow copy, c'est le flow mais ça flow Chiro qui flow hero quoi. C'est le flow copy, c'est le flow mais ça flow Chiro qui
et même à bout de sous. Flow pro et même à bout de sous. Flow pro et même à bout de sous.
Et comme à l'accoutumée, les étoiles sont allumées. Le chef nous a demandé d'enterrer le calumet.
Malgré les positifs,
les ambiguïtés, au nom de l'humanité, la paix sera héritée. Mais selon les prévisions que faisait Bison Futé dans le passé, sur la ligne de départ, des entités vont vouloir t'amputer. Pour avoir le tipi, il te faudra autre chose que le CDD. Mais comme l'espoir fait vivre, tu te mettras à gratter des DD. Pourtant, toujours le sum-sum, alors que tu veux le fun-fun. T'es trop jeune pour le tum-tum, trop sage pour sortir le gun-gun. La vie est une Cheyenne, comme le disait Stella à Charleroi. Ça veut dire qu'elle est belle quand on a l'arc et qu'on a le carquois. C'est le
flow, mais ça flow, Shiro, qui flow, Hiro, quoi, c'est le flow, copy, c'est le flow, mais ça flow, Shiro, qui
et même à bout de sous. Flanco, et même à bout de sous. Flanco, et même à bout de sous. C'est le flow, mais ça flow, Shiro, qui flow, Hiro, quoi. C'est le flow, copy, c'est le flow, mais ça flow, Shiro, qui flow, Hiro, quoi.
Radio Madu.
La radio du collège Marthe du Perron.
À Langogne. Sur 48 FM. Vous êtes avec Charlie sur Radio Madu. Nous reprenons notre émission avec un dossier réalisé par l'équipe de rédaction de la Web Radio dans le cadre du Digital Cleanup Days. Les reportages sur Radio Madu.
C'est incroyable tout ce qu'on peut faire grâce à Internet. En un clic, on a accès à tout, gratuitement ou presque. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que nos écrans sont de fumée. Ils masquent l'énergie, les ressources requises et la pollution engendrée. Comment ? Pourquoi ? Mathieu va nous expliquer tout cela.
Tout à fait, Thibault. Figure-toi que le numérique, c'est 4% de l'énergie primaire consommée et 5% de l'énergie électrique. Pour faire simple, si le numérique était un pays, il ferait presque 3 fois l'empreinte environnementale de la France. Dans le futur proche, Internet pourrait devenir la principale source de pollution mondiale. Aujourd'hui, seulement 58% de la pollution mondiale utilise Internet. Mais d'ici 2030, la consommation électrique du web pourrait être colossale.
C'est assez inquiétant. Mais Mathieu, comment expliquer cette gloutonnerie énergétique ?
En regardant de plus près, on se rend compte qu'on peut diviser la consommation en 2 secteurs. Il y a la fabrication des machines qui représentent 35% de l'énergie totale, et leur utilisation qui représente 65% restant.
Mais alors que faire ? Léo a mené l'enquête sur la fabrication des machines.
Tout à fait Thibaut. Les déchets électroniques sont ceux qui augmentent le plus vite en Europe. Moins de 40% sont recyclés. Pourtant, on peut agir chacun de notre niveau. Comment, me redigez-vous ? En suivant les 5 R.
Les 5 R ? Mais qu'est-ce que c'est que les 5 R ?
Les 5 R, c'est le R de réduire. Réduire nos achats en investissant dans du matériel robuste et peu énergivore. Réduire également les pannes en entretenant notre matériel, en supprimant les archives de nos disques durs et en dépoussiérant les ordinateurs pour prolonger leur durée de vie, par exemple. Le R de réparer, nous-mêmes ou par un professionnel. Le R de réemployer, en achetant du matériel reconditionné. Le R de recycler, en triant nos déchets électroniques. Et enfin, le R de renoncer, en ne cédant pas de l'achat plaisir.
Merci Léo. Des propositions simples à mettre en œuvre pour agir. Charlie a lui aussi mené l'enquête sur l'utilisation du numérique. Charlie, peux-tu nous en dire un peu plus ?
Tout à fait Thibaut. Tout d'abord, le top 4 de nos petites habitudes numériques qui ont le plus d'impact. En première position, les vidéos, bien entendu, qui représentent 80% du trafic sur le web. En seconde position, les réseaux sociaux, qui représentent 5% du trafic réparti entre le partage de vidéos, messages, images, mais également les métadonnées et les pubs. Les mails arrivent en troisième position, avec presque 300 milliards de mails envoyés par jour dans le monde. Énorme quand on sait que 75% d'entre eux sont des spams et qu'ils ne sont même pas lus. Enfin, en dernière position viennent les requêtes sur les moteurs de recherche.
Merci Charlie. Pour ce constat, as-tu des propositions à nous faire nous limiter notre impact au quotidien ?
Oui, bien entendu. D'abord, pour les vidéos, 2 petites astuces très efficaces. Réduire la résolution et annuler la lecture automatique. Évidemment, le plus efficace est de regarder que ce qui nous intéresse vraiment. Sais-tu, presque 1/3 des vidéos visionnées sur Internet sont des vidéos pornographiques.
Incroyable ! Il est grand temps de changer nos habitudes. As-tu des propositions à faire concernant les réseaux sociaux ?
Oui, La photo de ce qu'on a mangé à midi ou le doux sourire du réveil est-elle vraiment indispensable? On fait d'une pierre deux coups. Ne pas les publier, c'est économiser l'énergie et protéger sa vie privée.
Merci Charlie. Et pour les emails?
Il y a quelques bonnes habitudes à prendre, comme effacer les emails envoyés ou obsolètes, supprimer tous les spams, se désabonner des newsletters qui nous intéressent plus, limiter les destinataires et les pièces jointes, ne pas ajouter d'images en signature automatique.
Quel bon geste facile à mettre en œuvre pour la planète. Enfin, une solution pour les moteurs de recherche.
Oui Thibaut, il en existe aussi. Pour les sites qu'on fréquente régulièrement, un réflexe. On les met dans les favoris ou on crée un raccourci. Cette astuce divise par 4 l'énergie consommée à chaque visite. En plus, on gagne du temps. Il faut aussi choisir un navigateur peu énergivore, comme Firefox.
Merci Charlie pour toutes ces astuces. On donne quelques astuces complémentaires dans mon oreillette. Je vous partage. Privilégier le Wi-Fi à la 4G, qui est jusqu'à 25 fois plus énergivore. Et éteindre les appareils en veille. Limiter l'usage de cloud en privilégiant l'utilisation de clés USB ou de disques durs externes. Merci Mathieu, Léo et Charlie pour toutes ces informations. Nous recevons à présent Guillaume Davot, professeur de physique chimie au collège Marthe Duperron, chargé du numérique, qui va nous parler du Digital Cleanup Day. Bonjour Monsieur Davot.
Bonjour Thibault.
Monsieur Davot, dites-nous un peu plus sur le Digital Cleanup Day.
Un Digital Cleanup Day, c'est la journée du nettoyage numérique en France et partout dans le monde. L'objectif, c'est de créer une prise de conscience de l'impact environnemental du numérique et de proposer des actions de sensibilisation au numérique responsable.
Merci Monsieur Davot. Pourriez-vous nous présenter les actions qui auront lieu dans le collège dans le cadre de cette journée?
Bien sûr Thibault. Alors d'abord, j'ai consacré une séance de cours sur les niveaux 3e et 4e pour sensibiliser les élèves à l'impact du numérique sur notre planète. Pendant la séance, les élèves ont participé au nettoyage des données sur le serveur d'établissement et puis sur le NT. J'ai également récolté les statistiques que je vais bientôt transmettre au référent académique. Ensuite, dans le hall de l'établissement, on a installé une Witribox afin de récolter le matériel informatique obsolète de l'établissement pour qu'il soit recyclé dans les meilleures conditions avec un partenaire qui s'appelle donc Ecologic. Les élèves et les éco-délégués de l'établissement vont donc faire le tour du collège à la recherche de vieux matériels en vue de leur recyclage. Ensuite, pour terminer, pour communiquer de façon plus large sur cette problématique, j'ai rédigé l'article qui va être consultable sur l'ENT ainsi que dans la presse locale, qui présente un petit peu les tenants et les aboutissants de cette action. Et bien évidemment, on peut citer l'émission que nous sommes en train d'enregistrer, qui va participer, je l'espère, à la diffusion de cette information.
Merci Monsieur Davot. C'est la fin de notre dossier spécial Digital Cleanup Day. Il ne me reste plus qu'à vous inviter, chers auditeurs, à adopter les bons réflexes numériques pour préserver notre planète.
Vous êtes toujours avec Charlie. Parlons sport à présent, avec Tessa, élève de 6e, qui va parler du biathlon au micro de Mathieu.
On feuillette les articles du CDI sur Radio Madu.
Bonjour, vous êtes avec Mathieu sur Radio Madu. Aujourd'hui, nous allons écouter Tessa qui va nous parler du biathlon. Bonjour.
Bonjour. Je vais vous présenter un article du CDI Le Monde des Ados. Le titre est « À l'école des champions, c'est un bimensuel ». L'auteur est Martin Delacou. Cet article parle de Charlie, 13 ans, passionné de biathlon. Je vais vous expliquer ce que signifie le biathlon. Le biathlon est un ensemble de disciplines sportives. Tout d'abord, il y a le tir, mais aussi le ski de fond en technique skate. Petite parenthèse, en tir, quand on manque une cible, on obtient une pénalité. Pénalité peut aussi être sous forme de rajout de temps. Quand on manque une cible, on obtient une pénalité. Et on fait un tour de pénalité, tour supplémentaire en ski de 150 mètres. Revenons à Charlie. Charlie peut compter sur sa mère en cas de besoin, car sa maman travaille dans le même collège que lui. Sa maman est prof de SVT. Ils sont au collège de Font-Romeu dans les Pyrénées. Martin Fourcade, multiple champion de biathlon, est un ancien élève de ce collège. Charlie a longtemps hésité entre le ski alpin où il était doué, mais le biathlon s'est imposé. Le modèle de Charlie est Émilien Jacquelin, 26 ans. Son frère Clément fabrique des carabines de biathlon. Martin Fourcade a fait dans ce même collège ses études. La discipline est devenue très populaire avec son succès.
Merci pour ces informations, Tessa. C'était Mathieu sur Radio Madu.
C'est Tessa, élève de 6e du collège Marthe Duperron de Langogne. Dans le cadre des cordées de la réussite, droit et justice, les élèves de 4e ont assisté à une audience au tribunal du Puy-en-Velay. Je laisse l'antenne à Thibault qui a recueilli leur témoignage.
L'interview.
Sur Radio Madu.
Vous êtes avec Thibault sur Radio Madu. Je reçois cette semaine Sandrine Peyrac, professeure d'histoire-géographie et d'éducation morale et citoyenne au Collège Marthe-du-Perron, accompagnée de Faustine et Ménéas, dans le 4e B, et Simon et Melvin, élèves de 4e A, qui vont nous parler de la visite du tribunal du Puy-en-Velay qui a eu lieu le 27 février. Bonjour.
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 Madame Peyrac, pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous avez souhaité organiser cette rencontre ?
C'est dans le cadre du cours d'éducation morale et à la citoyenneté que les élèves sont allés assister à une audience, parce que ça permet un petit peu de prendre pleinement conscience de ce que c'est que la règle, le droit et comment on la fait respecter dans notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont allés. Donc une première classe a pu aller à une audience au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Et une autre classe, la 4e B, est allée au tribunal correctionnel de Mende.
Merci Madame Peyrac. Comment s'est déroulée la journée ?
À chaque fois, donc c'était des audiences à juge unique. Et donc du coup, ça veut dire assister à plusieurs procès qui sont assez rapides. Donc ça permet aux élèves de voir en général le début et la fin d'un procès jusqu'au délibéré. Et à chaque fois, les élèves sont vraiment bien comportés et donc ils ont pu assister vraiment sans problème à plusieurs procès.
Merci Madame Peyrac. Cette activité aura-t-elle une suite en classe ?
Oui, alors en classe, les élèves rencontreront bientôt une étudiante en droit qui est en deuxième année de droit à l'Université de Montpellier. Voilà, il y a également une exposition qui a été installée dans le hall sur tout ce qui est l'expertise, la notion d'expertise à partir des archives départementales de Lozère, sur laquelle également ils vont un petit peu travailler de façon à faire un questionnaire à destination du lycée où l'exposition arrivera l'année prochaine. Je voulais dire juste que tout ce travail qu'on fait autour de la notion de droit et de justice, ça s'inscrit dans un projet très large qui s'appelle les cordées de la réussite, où le but, c'est également d'ancrer nos élèves sur ce qu'il pourra y avoir plus tard au niveau du lycée ou au niveau de l'enseignement supérieur. Donc c'est aussi le but, c'est aussi de leur donner déjà, de les projeter sur leur avenir et de leur donner aussi de l'ambition pour leurs études. Même s'ils ne se consacrent pas forcément au droit, c'est une ouverture aussi sur l'enseignement supérieur. Et nous travaillons en lien avec d'autres collèges de Lozère et d'autres lycées également qui sont dans ce projet-là.
Merci Madame Peyrac. Faustine, avais-tu déjà visité un tribunal ou assisté à un jugement ?
Non, ça ne m'était jamais arrivé. Pour moi, c'était une première fois et franchement, j'ai beaucoup aimé, ça m'a appris beaucoup de choses.
Merci. Et toi, Simon, avais-tu déjà assisté à
un jugement ? Non, moi, c'était la première aussi et j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Merci. Ménélas, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette journée ?
C'était une audience qui comportait sur un couple qui s'était disputé à propos d'un chat et qui, très violemment, voilà.
Merci. Et toi, Melvin, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ?
Moi, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est... dès qu'une personne a été jugée car il a voulu faire une cabane à poules avec des machines à laver.
Merci. Faustine, qu'as-tu appris au cours de cette journée ?
Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris comment se déroulait un procès. Alors j'étais un peu triste parce que j'ai pas pu voir la plaidoirie lors de notre audience, donc je n'ai pas appris comment procéder les avocats. Mais sinon j'ai appris comment procéder le juge et la procureuse, donc j'étais assez contente.
Merci. Et toi, Simon ?
J'ai beaucoup appris de tous les métiers qui se trouvent donc au tribunal. Commenter un tribunal parce que voilà. C'était la première fois que je voyais des affaires, donc je voyais comment ça se déroulait.
Merci. Ménélas, que retiens-tu de cette rencontre ?
Qu'on peut être jugé, par exemple, parfois sur une trop forte dose d'alcool ou, par exemple, pour rien du tout, quand les choses commencent à dégénérer et qu'il faut faire attention à son comportement, tout ça.
Madame Peyrac, Ménéas, Faustine, Simon et Melvin, nous vous remercions pour vos témoignages et à bientôt sur Radio Madu.
Vous êtes toujours avec Charlie sur Radio Madu. Petite pause musicale à présent avec une chanson de Magic System intitulée Magic in the Air. Radio Madu,
la radio du collège Marthe du Perron,
à Langogne, sur 48 FM.
Vous êtes avec Mathieu sur Radio Madu. Nous arrivons déjà à la dernière partie de notre émission. Nous la commençons avec l'interview de Angie, élève de 6e, qui va nous parler des fossiles au micro de Léo.
On feuillette les articles du CDI sur Radio Madu.
Bonjour, vous êtes avec Léo sur Radio Madu. Aujourd'hui, nous allons écouter Angie, qui va nous parler des fossiles. Bonjour.
Bonjour, je vais vous présenter un article dans Science et Vie Junior. C'est un hebdomadaire. Je vais vous parler d'un article fait par Emmanuel Destoury et Marie-Catherine de Mera. Ça parle de deux fossiles mystérieux passés au crible. Les monstres du passé. À la fin du XVIIIe siècle, la science a commencé à lever les voiles sur l'origine des fossiles. Dès la préhistoire, fascinés par ces organismes pétrifiés, les humains faisaient des bijoux et leur prêtaient des pouvoirs magiques. Ils les imaginaient tombés du ciel ou issus de la terre. Ils voyaient des démons ou des monstres, en voici quelques-uns que je vais vous présenter. Les serpents pétrifiés. La légende dit « Croyez au miracle de Dieu, cette pierre fit un serpent ». C'est écrit en latin en dessous d'un fossile en forme de spirale. C'est l'œuvre de Bartholdi d'Anjou, un religieux du Xe siècle, qui enseignait la médecine à l'université. En voyant cet animal le pétrifier, il a pensé à un serpent louvé sur lui-même que Dieu aurait transformé en pierre. La réalité, c'est que ces fossiles sont des ammonites, animaux marins dont la tête est munie de tentacules. Hier, les plus petites faisaient quelques millimètres, les plus grandes faisaient 2 mètres de diamètre. Les doigts du diable. Des fines pierres appelées doigts du diable, flèches d'elfes malfaisants, flèches tonnerres pétrifiées, ils leur prêtaient tous une origine surnaturelle. La réalité, c'est que ces fossiles, tout comme les ammonites, sont des animaux marins. Ils ont vécu dans le Jurassique et dans le Crétacé. Ça ressemble à un calamar en plus âgé et doté d'un rostre ou un éperon pointu. Et c'est cette partie qui est venue jusqu'à nous.
Merci pour ces informations, André. C'était Léo sur Radio Madu.
Vous êtes toujours avec Mathieu sur Radio Madu. Mardi 12 mars, les élèves de 3e ont assisté avec enthousiasme à la projection d'un film fort et poignant lors d'une sortie cinéma. Je laisse le micro à Thibaut, qui a recueilli le témoignage de quelques élèves.
L'interview
sur Radio Madu.
Bonjour, vous êtes avec Thibaut sur Radio Madu. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre et Anatole, élèves de 3e, accompagnés par Romain Fauconnier, professeur d'histoire-géographie. Bonjour.
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 Aujourd'hui, vous venez nous parler du film d'animation Wardi que les élèves de 3e ont vu le 12 mars au cinéma de Langogne. Monsieur Fauconnier, pouvez-vous nous expliquer pourquoi y être allé ?
Oui, merci Thibaut. Nous sommes allés voir avec les deux classes de 3e le film d'animation Wardi le 12 mars dans le cadre de Collège au cinéma. C'est un programme qui est parrainé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. Et son but, c'est de faire découvrir en fait, aux élèves de toutes les classes la diversité des œuvres cinématographiques, donc des films plus ou moins anciens, voilà, des films d'animation ou en prise de vue réelle. Et c'est généralement en lien avec les programmes scolaires. Donc chaque année, il y a 3 films qui sont sélectionnés au niveau du département. Et donc, voilà, ça fait maintenant plusieurs années que le Collège Mardi Perron y participe. Et cette année, donc, on a déjà pu voir 2 premiers films, un avec les 4e et un autre avec les 6e en début d'année. Et donc là, c'était le 3e film qui nous était proposé. Et donc, comme c'est en lien quand même avec l'histoire récente, hein, le monde depuis 1945, et aussi un peu avec ce qu'on a vu dans le pays parcours d'exil, on s'est dit avec Madame Roux que c'était bien que les élèves de 3e puissent aller le voir. Voilà.
Merci, monsieur. Quelle est l'importance du contexte historique dans le déroulement de cette histoire ?
C'est vrai que là, le scénario du film, il s'inscrit totalement dans un contexte historique aussi géographique qui est assez en fait compliqué et particulier. Ça touche à l'actualité. Hein. On en a parlé très régulièrement cette année du conflit israélo-palestinien, en fait. Et donc, voilà, c'est l'histoire de réfugiés palestiniens au Proche-Orient, plus particulièrement ici à Beyrouth, la capitale du Liban. Donc d'ailleurs, il y a tout au long du récit du film des flashbacks sur des événements qui se sont passés en lien avec cette histoire. Donc pour faire bref, hein, en fait, ça a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, donc avec la création d'un État au Proche-Orient qui s'appelle l'État d'Israël. À ce moment-là, ça a déclenché un conflit entre ce nouvel État, Israël, majoritairement juif, avec les pays donc des alentours, qui sont eux principalement musulmans. Et dans le cadre de ce conflit, donc Israël a conquis des territoires palestiniens, donc musulmans. Et donc beaucoup de Palestiniens ont dû fuir Alors, soit forcés, soit parce qu'ils fuyaient tout simplement la violence des conflits. Donc, il y a eu entre 600 000 et 800 000 personnes qui ont dû fuir ce qu'on appelle la Palestine en 1948. Et donc, ici, c'est l'histoire d'une de ces familles. En plus, ils ont la particularité, ces réfugiés palestiniens, d'être toujours dans un statut de réfugié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de revenir sur leurs anciennes terres, donc qui font partie aujourd'hui de l'État d'Israël.
Merci. Anatole, peux-tu nous résumer le film ?
Ben, on a l'histoire d'une petite fille qui va parler à sa famille et qui a un lien avec son arrière-grand-père qui était réfugié de la guerre de Palestine. Et tout au long de sa rencontre avec sa famille, et ben, on apprend l'histoire qu'a eue sa famille.
Merci. As-tu aimé le film ? Le conseillerais-tu à des gens ?
Oui, j'ai bien aimé, et je le conseillerais, mais à un public qui comprendrait facilement, qui ne serait pas trop jeune.
Merci Anatole. Alexandre, et toi, as-tu aimé le film ?
Ah oui, j'ai beaucoup aimé le film.
Merci Alexandre. Quelles émotions ce film t'a procuré ?
De la tristesse. Parce que quand on voit tous ces exilés dans une toute petite ville, c'est triste quoi.
Une interview qui donne envie d'aller voir ce film Wardi. Merci Alexandre, Monsieur Fauconnier et Anatole. Et à bientôt sur Radio Madu.
Vous êtes toujours avec Mathieu sur Radio Madu. Nous poursuivons notre émission avec Hugo, élève de 6e, qui va nous parler de Snapchat.
On feuillait les articles du CDI sur Radio Madu.
Bonjour, vous êtes avec Mathieu sur Radio Madu. Aujourd'hui, je vais accueillir Hugo, élève de 6e A, qui va nous parler de Snapchat. Bonjour.
Bonjour. L'article que je vais vous présenter a été publié en octobre 2021 dans la revue qui s'appelle Geek Junior. C'est une revue mensuelle qui s'adresse aux ados pour les aider dans leur vie numérique. L'article que j'ai choisi s'intitule « Snapchat, l'application reine au collège » et a été écrit par Solène Kuzner. Snapchat, en fait, c'est quoi ? C'est une application créée en 2011 qui permet de communiquer avec tes amis, de regarder des vidéos et tu peux même en créer toi-même. Dans l'article, on nous donne aussi des astuces pour maîtriser l'application. Par exemple, les emojis d'amis, le bébé qui veut dire qu'on vient d'ajouter un nouvel ami. Il y a aussi les flammes, qui veut dire que tu dois envoyer tous les jours une photo, un snap, à ton ami. Il y a aussi les astuces, se mettre en mode fantôme. En mode fantôme, tu ne peux pas être détecté sur la carte. On ne sait pas où tu te trouves. Tu n'es pas géolocalisé. Dans la dernière page de l'article, on parle du phénomène Bitmoji. Un Bitmoji, c'est quoi ? Un Bitmoji, c'est comme ton avatar. C'est ton personnage que tu personnalises tout seul. Ça doit te représenter. Mais le Bitmoji, c'est bien plus qu'un avatar. Tu peux te cacher derrière et te forger une identité. En conclusion, en 10 ans, Snapchat est devenu le réseau social préféré au collège. Plus de 3 collégiens français sur 4 l'utilisent.
Merci pour cet article intéressant. Au revoir.
Au revoir.
C'était Hugo, élève de 6e au collège Marthe Duperron de Langogne. Il est malheureusement temps de se quitter. Je vous laisse avec une chanson de gala qui s'intitule Free From Tears. On se retrouve bientôt, même heure, même fréquence. Merci de nous avoir écoutés. C'était Radio Madu.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire.